doit être vert ici. Oui, alors aujourd'hui à l'émission Rêver pour moi, je reçois Maïté Snovart. Maïté, merci d'être là d'abord.
Merci Catherine.
Et puis peut-être on va commencer tout de suite. Je vais te demander quel rapport as-tu au rêve? Est-ce que tu rêves beaucoup?
Alors je rêve beaucoup. Oui, je pense que je rêve beaucoup. Je rêve beaucoup et je rêve toutes les nuits. Je ne me souviens pas tout le temps de mes rêves, mais je rêve beaucoup, ça j'en suis sûre. Et quand j'étais enfant, en fait, c'est ma sœur qui était très bonne pour me faire raconter mes rêves le matin.
Ta sœur aînée
Ma sœur aînée, ouais. Elle avait vraiment, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, peut-être elle le fait maintenant avec ses enfants, mais elle avait vraiment le don, je dirais, de me poser les bonnes questions, tu sais, d'appuyer exactement sur... Moi, je racontais simplement ce qui s'était produit, l'action, si tu veux, et elle me posait les questions qui, psychologiquement, en fait, faisaient résonner des choses. Alors, elle était au courant de toute ma vie, ma sœur, elle a 3 ans de plus que moi, on vivait beaucoup de choses ensemble, on se racontait tout le soir dans le lit. Puis elle m'a demandé, est-ce que tu crois que ceci dans ton rêve, ça te fait penser à cela? Ou
C'est
est-ce
vrai.
que... Et ça devenait tout de suite symbolique, en fait. Elle était vraiment très, très bonne pour faire ça. C'était rigolo. Donc, je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à...
Est-ce qu'il y avait une habitude chez vous dans la famille de raconter des rêves?
Il y avait l'habitude d'avoir le dictionnaire des rêves dans le tiroir du buffet en bas, que ma mère consultait assidûment, je dirais. Donc, il y a vraiment cette pratique-là, ouais, de... C'est ma mère, en fait, qui a cette pratique-là au départ. J'imagine que ça s'est transmis d'une certaine façon. Même si ma mère, en fait, raconte pas tellement ses rêves. Elle raconte un peu ses rêves, mais pas tellement. Mais ça s'est passé donc à ma sœur et moi. Puis il y avait le côté, le matin, on lisait notre horoscope, puis on ouvrait le dictionnaire des rêves.
C'est
Tu vois, il y
vrai.
avait le côté, comment la journée allait-elle se dérouler.
Moi aussi, je te disais, on avait la clé des songes, un
Ouais.
livre, donc un livre de culture pop là,
D'accord, ouais.
mais un peu jungien en fait.
Ouais.
Après ça, j'ai compris que c'était jungien, mais où on regardait la signification. Mais mon père avait lui-même des interprétations des rêves très très fortes.
Que lui proposait, tu
Oui,
veux dire?
mais avec des symboles, c'est-à-dire c'est mauvais, un bon ou un mauvais rêve. Que ta sœur, ça n'a pas l'air d'être ça. Ta sœur, ça avait l'air.
Non, ma soeur, elle me faisait vraiment trouver quelle signification le rêve avait pour moi. Qu'est-ce qu'il avait à me révéler le matin, en fait?
Et tu gardes cette habitude-là de raconter tes rêves le matin?
Un peu, mais même si je continuais à la raconter, c'est pas du tout systématique, mais ça m'arrive si le rêve m'a marqué ou m'a choqué. Mais j'ai pas du tout ce don-là qu'a ma soeur. C'est-à-dire qu'en fait, moi, toute seule, je n'arrive pas à construire l'interprétation.
Et pour les autres, comment tu fais?
Pour les autres, mieux, oui.
Oui.
Pour Daniel en particulier, avec qui je vis, oui, quand de temps en temps, ce qui est rare, il me raconte ses rêves, moi j'ai l'impression de voir assez bien, d'arriver à en mettre en perspective avec ce qui s'est vécu dans la journée de la veille. Mais pour moi, non, c'est. J'ai pas ce don-là de ma sœur.
Même quand tu les racontes, tu les interprètes pas.
En fait, bizarrement, non, pas vraiment.
Tu les écris, tes rêves?
Ça m'arrive de les écrire, oui. Il y en a plusieurs que j'ai écrits déjà. Il y en a un en particulier que j'ai fait dans une chambre d'hôtel en escale, quand je travaillais comme hôtesse à Air France pendant des saisons d'étudiante. Et c'était très bizarre, tu vois, encore aujourd'hui. En fait, les rêves que j'ai gardés puis que je porte, c'est ceux que j'ai vraiment pas compris. Donc, en fait, je comprends pas mes rêves dans l'ensemble, c'est pour ça qu'ils continuent de m'habiter. Et j'avais rêvé qu'un petit garçon se faisait tirer dans la poitrine sur une barque au milieu d'un lac.
Et puis ce
Qu'est-ce
rêve-là,
que
tu
ça peut
sais.
vouloir dire? Je veux dire, je dormais en fait, donc probablement un décalage horaire. Je faisais la sieste l'après-midi, ce qui ne m'arrive jamais parce que je suis une très mauvaise siesteuse. En fait, je me réveille vraiment ronchon,
Oui.
puis après je suis foutue pour la soirée, donc je dors jamais dans la journée. Mais là, j'imagine qu'en escale, je devais être décalée ou je sais pas quoi. J'avais fait une sieste l'après-midi et je m'étais réveillée subitement, comme si j'avais senti le coup de feu dans la poitrine. Mais c'était dans mon rêve, un petit garçon au milieu d'une barque, au milieu d'un lac, qui s'était fait tirer dans la poitrine.
Et ce rêve t'habite, mais tu sais
Et j'y
pas.
pense encore parce que je ne l'ai pas compris, quoi. Et encore aujourd'hui. Et puis sur le moment, j'avais vraiment essayé avec les outils qui étaient à ma disposition de me demander à quoi c'était lié. Puis
Et est-ce qu'ils t'aident à écrire? Parce que tu écris de la fiction. Est-ce que des fois c'est comme une espèce de noyau qui te. Sans que ça soit le récit de rêve, mais est-ce que le rêve te.
oui, je pense que le type de... Encore une fois, ça n'a rien de systématique, mais je pense que le type de texture qu'il y a dans le rêve, c'est quelque chose que tu essaies de retrouver dans l'écriture. Mais je serais portée à dire que j'aime beaucoup cette phrase de Suzanne Jacob dans La Bulle d'encre qui dit, c'est dans le dernier texte, tu sais, on l'avait lu ensemble dans un colloque qui dit que, enfin qui dit par la voix d'un personnage, mais qui dit qu'elle pense que chacun a quelques histoires en soi, puis qu'on est chacun dépositaire de quelques histoires, puis que c'est ça qui fait la richesse de chacun. On n'en a pas 50, mais on en a
Non, non.
quelques-unes qui sont à nous. Mes rêves, moi, j'ai l'impression qu'ils fonctionnent comme ça. J'ai quelques rêves qui sont à moi, Puis je comprends pas ce qu'ils veulent dire, mais je sais que par contre, c'est vraiment les miens. Si tu veux. Donc de ce point de vue-là, je pense que quand on écrit, c'est la même chose qu'on cherche. Qu'est-ce qui est vraiment à soi? Qu'est-ce qui est vraiment mien? Mais qu'en même temps, je peux pas garder. Il faut que ça devienne autre chose pour quelqu'un d'autre, parce que sinon, justement, ça n'arrive jamais à faire du sens.
Et un rêve, qu'est-ce que c'est pour toi? Parce que c'est le mot qui m'est venu quand tu as dit des rêves qui sont vraiment à nous, à soi. Je me dis, c'est comme presque des récits fondateurs. Puis dans ma tête, je me suis dit, c'est peut-être pas des récits dans le fond. Est-ce que c'est des images? Qu'est-ce que c'est?
C'est vraiment des images.
Des images.
Ouais. Je sais qu'il y a des gens pour qui c'est plus des sensations ou quoi, mais c'est vraiment des images. Et j'ai tendance à faire des rêves récurrents. Donc, mon rêve récurrent d'enfant, enfin, c'est des images, c'est vraiment c'est des expressions d'émotions aussi, je pense. Mais mon rêve récurrent quand j'étais enfant, c'est que c'est des rêves très réalistes généralement que je fais, en couleur, assez rarement fantastiques. Généralement, c'est vraiment très très réaliste. C'est des situations qui pourraient être réelles, mais qui sont comme agrandies ou dramatisées, quoi. Donc j'allais à l'école, puis c'était le chemin de l'école réelle, si tu veux, de ma vie d'enfant. J'allais à l'école, puis il y avait un endroit où il fallait traverser la rue. Alors t'imagines bien, j'imagine que je devais avoir des consignes, comme tous les enfants, de faire attention en traversant la rue. Et dans mon rêve, je tombais au milieu du passage piéton en traversant la rue, et comme dans les rêves, justement, je n'arrivais pas à me relever. Et une voiture blanche arrivait. Donc il y avait cette... Puis évidemment, je me réveillais parce que c'était insupportable, mais c'était un rêve d'angoisse, finalement. Et c'était tout le temps le même trajet... Puis je savais tout le temps ce qui allait m'arriver.
Donc, c'est en allant ou en revenant?
En allant à l'école le matin. Puis il y avait aussi un recoin que j'aimais pas trop sur le chemin, une porte dans une maison que j'aimais pas trop parce que c'était sombre. J'avais peur de me faire attaquer, j'imagine. Mm-hmm. Et il y avait jamais personne, tu sais, c'était un paysage réaliste, mais en même temps un peu comme dans le Cri de Munch. Tu sais, où tout est distendu, puis il y a personne dans les rues, puis c'est pas normal. Voilà.
Et cette voiture blanche, alors, elle était...
Elle me voyait pas, elle allait pour foncer sur moi, puis moi, j'arrivais pas à me relever. Tu sais cette espèce d'atmosphère gluante dans laquelle t'es prise dans les rêves, là où tu sens que tout ton comportement moteur est entravé. Là.
On te voulait pas de mal, mais on allait te faire mal.
Ah oui, dans la voiture, il y avait personne de délibérément méchant. C'était vraiment c'était plus la manifestation du danger extérieur qui pouvait survenir sur le chemin de l'école.
Tu dirais que c'était un cauchemar ou un rêve récurrent, mais c'était aussi un cauchemar.
C'était vraiment un cauchemar.
Et tu te réveillais, tu étais...
Je me réveillais parce que, tu sais, comme tu te réveilles en fait dans les rêves, quand j'imagine que tu ne peux plus le supporter, psychiquement ou même physiquement, je ne sais pas très bien ce qui fait qu'on se réveille, mais tu te réveilles parce que c'est plus tenable en fait. Puis là, il n'y a pas de résolution possible, sinon par le réveil. Quoi.
Tu fais encore des cauchemars?
Alors, à certaines périodes du mois que je ne nommerai pas et que tout le monde devinera, je fais des cauchemars tout à fait sanguinolents, avec des crimes maniaques, je suis attaquée, des gens se font découper, il y a du sang partout, c'est dégueulasse. Ça m'arrive à peu près une fois par mois, quoi. Et en fait, le premier rêve que j'ai fait comme ça, très, 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 très sanglant, ça, c'est pas du tout un rêve récurrent, je l'ai fait une fois unique, mais j'avais, je sais pas, c'était juste avant la puberté, quoi, j'avais 12 ans ou quelque chose comme ça. Et j'avais rêvé que mon frère se faisait couper les jambes dans un camion d'Allemand sur la place de la Poste. Donc, dans le rêve, c'était comme pendant la guerre 39-45. Il y avait des camions d'Allemands kaki avec des bâches. Puis mon frère était au fond du camion et il s'était fait couper les jambes. Mais mon frère était tout petit. Il avait, si j'avais 12 ans, il avait 6 ans, tu vois. Et là, je m'étais vraiment réveillée, comme dans les films, justement, en hurlant. C'était épouvantable. Là, ma mère était arrivée, apeurée, en disant « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe ?» J'avais raconté ce rêve plein de sang. C'est ça qui était dégueulasse. C'était trop tard, j'arrivais trop tard, je ne pouvais pas le sauver, puis il y avait plein de sang. Alors, on ne me demande pas pourquoi il y avait un contexte allemand guerrier à travers ça, parce que ma famille n'a pas été... Il n'y a pas d'historique dans ma famille de relation vraiment à la guerre, si ce n'est que ma mère est née en 1945.
Et puis t'habites en Normandie.
J'habitais en Normandie à ce moment-là.
Ouais.
Ouais, mais c'était effectivement, c'était pas forcément, c'était pas présent dans la famille, tu vois, pourtant. Mais
non, c'est juste que quand je suis allée en Normandie encore cette année, je me dis mon Dieu qu'ils sont encore dans la guerre.
Oui, probablement. Mais tu vois, en même temps, on n'est pas normand, du coup, chez nous. Ça n'a pas la même signification. C'est sûr qu'on a fait les plages du débarquement avec l'école, avec nos parents. Comme des visites obligées, tu vois, mais c'est pas... Il n'y a personne dans notre famille qui a vécu le débarquement en Normandie parce qu'on n'habitait pas là dans notre famille encore à cette époque.
Et cet enfant, l'autre rêve que tu as fait avec l'enfant qui recevait une balle, c'était pas la guerre du tout, ça?
Non, c'était pas la guerre du tout, puis c'était pas non plus mon frère, c'était pas quelqu'un que je connaissais. Et le rêve de mon frère qui m'avait fait si peur, ma mère donc était venue me réveiller parce que je hurlais, je pense même que c'est ma mère qui m'a réveillée, en fait. Et elle m'avait dit, peut-être que ta grand-mère va bientôt mourir. Donc, chez ma mère, il y a une... D'ailleurs, peut-être comme chez ma sœur, en fait, mais différemment. Chez ma mère, il y a une forte tension ou tendance à l'interprétation. À chercher des oracles dans les
rêves. Oui, c'est ça. Moi, mon père, c'est plus de cet ordre-là. C'est-à-dire, c'est de bon ou de mauvais augure. Tu sais, alors que, après ça, moi, j'ai essayé quand même de sortir de ça. C'est-à-dire qu'après ça, j'ai essayé d'interpréter mes rêves plus comme ta sœur, parce que pour sortir de l'augure, tu sais, parce que des fois... Enfin, c'est un peu la question que je veux te poser. Est-ce que quand tu fais un mauvais rêve, est-ce que ta journée est hypothéquée? Est-ce que ça a un impact sur tes jours ou tu passes à autre chose très rapidement?
Non, je passe à autre chose rapidement parce que, sincèrement, je ne pense pas que les rêves soient porteurs de présages.
Mais et sans que ça soit porteur de présages, juste simplement l'atmosphère, tu arrives à t'en débarrasser?
L'atmosphère, parfois, c'est difficile, mais c'était plus difficile quand j'étais plus jeune. Quand j'étais enfant, ça me marquait plus longtemps. En plus, parce que quand tu le racontes, avec une sœur comme ça, très proche, tu l'entretiens. Alors qu'aujourd'hui, j'ai plus tendance à... Parfois, je voudrais les retenir, mais si je me lève puis que je bois mon café, ça y est, j'ai oublié, c'est déjà trop tard, tu vois. Il faut vraiment rester comme dans une sorte de proximité.
Tu ne fais pas d'effort pour les retenir trop.
Parfois, tu sais qu'il y a eu quelque chose, puis là, tu fais un effort.
Ouais.
Mais c'est pour ça que moi, je crois vraiment profondément que... Enfin, je crois, j'imagine que ça a déjà été démontré, mais je crois vraiment que tu t'envoies des messages ou que tu te dis des choses ou qu'il y a des choses que tu n'as pas complètement réussi à métaboliser, donc tu essaies de les comprendre pendant la nuit. Donc, c'est peut-être plus rationnel, en fait. Je vais essayer d'avoir une tâche interprétative, mais plus rationnelle. C'est-à-dire, j'essaie de me connecter avec moi-même en me demandant ce que j'ai voulu me dire ou qu'est-ce qui m'inquiète ou qu'est-ce qui ne va pas en ce moment. Ou qu'est-ce que j'essaie de comprendre? Qu'est-ce que j'ai pas processé pendant le jour pour
Donc tu vois comme un moment d'accès à toi-même, alors que des fois t'as pas le temps ou t'as pas l'énergie, et le rêve te permet ça.
Je le vois comme des moments de liberté. Moi j'aime beaucoup dormir en fait, et du coup je pense que j'aime beaucoup rêver, mais tout ça me semble très... J'ai pas peur de mes rêves, si tu veux. Je trouve que tout ça est très, très organique. Puis je fais quand même des rêves qui sont assez limpides. Par exemple, je fais beaucoup ça depuis l'enfance. Je fais régulièrement, ils n'ont jamais la même forme, donc ce n'est pas exactement des mêmes récurrents, mais je fais des rêves du type « tu dois conduire une voiture et tu ne sais pas conduire ». Tu sais, alors c'est vraiment limpide, c'est sûr qu'à ce moment-là, dans ta vie, tu te poses des questions sur la responsabilité ou tu te sens trop responsable, je ne sais pas quoi. En plus, je ne conduis pas dans la vraie vie.
Je ne sais pas conduire en vrai.
Donc j'ai ce fantasme qu'un jour, je vais avoir mon permis de conduire, je vais réussir à passer l'examen, puis peut-être je vais arrêter de faire ces rêves-là, mais... ils prendront sûrement une autre forme, tu vois, à ce moment-là. Mais ça, je le fais souvent. Je dois prendre une voiture pour sauver mon frère et ma sœur, donc les plus jeunes, qui ont 6 ans de moins que moi. Et souvent, donc, dans mes rêves, je suis plus jeune, tu vois. Probablement parce qu'à l'âge que j'ai, il serait vraiment temps que j'ai mon permis de conduire et je devrais l'avoir.
Ouais, je ne peux pas te donner de conseils.
Je sais que tu me comprends. Donc, je fais ces rêves-là, tu vois, qu'il faut que je sauve toute ma famille, puis c'est moi qui dois appuyer sur les pédales, puis évidemment, ça ne marche pas parce que je n'ai jamais conduit.
Ouais.
Mais le pire, c'est que souvent dans les rêves, j'arrive quand même à m'en tirer, tu vois, à déplacer la voiture. Mais finalement, très vite, ça se concentre quand même beaucoup sur la mécanique de la voiture. Donc je sais même pas si c'est des rêves symboliques ou si j'ai juste vraiment envie de conduire. Quoi. Est-ce que toi, tu rêves que tu conduis,
Non, pas du tout. Je rêve jamais que je conduis. Je rêve toujours que je. Je prends toujours des taxis dans mes rêves.
Tu prends toujours des taxis dans la vie aussi.
Pas tellement des taxis maintenant, plus du tout même. Mais parce que c'est jamais moi qui conduis. Tu sais, c'est mon père qui me conduisait tout le temps. Tu sais, c'est quand j'étais petite, j'habitais très très loin. Mon père m'amenait à l'école. C'était le seul moment qu'on avait, quand on avait des moments ensemble, c'était la voiture. Et alors, je développe un rapport. Je dirais pas amoureux, mais franchement amical avec tous les chauffeurs de taxi. Okay. Tu sais, les chauffeurs de taxi, c'est quelque chose de très rassurant. Mais là, j'essaye de pas trop en prendre de taxi. Je marche beaucoup parce que je voudrais beaucoup me défaire de mon père. Tu sais, mais je pense que c'est la seule figure. S'il y a quelque chose qui incarne une figure paternelle pour moi, c'est le chauffeur de taxi ou le chauffeur de camion. Mais j'ai toujours eu l'impression que je savais pas conduire à cause de. Je suis pas capable de. C'est le seul rapport que j'ai à mon père. Je me vois jamais comme toi en train de conduire.
Mais tu veux pas conduire à la place de ton père?
Non. Faudrait que je passe mon permis, mais tu sais, là, à 48 ans.
Jamais trop tard pour bien.
Mais en même temps, je sais pas si ça enlèverait. Peut-être ça enlèverait. C'est vrai que ça enlèverait les rêves de taxi.
C'est drôle. C'est des rêves tristes, difficiles?
Non, pas toujours. Non, pas toujours. Non, c'est des rêves.
Pourquoi tu prends des taxis? Où est-ce qu'il faut que tu ailles là-bas?
Des fois, c'est une question d'horaire. En fait, c'est presque toujours à cause du temps. Je prends toujours des taxis, comme dans la vie, quand j'ai pas le temps. Tu sais, parce que, il faut aller se rendre très très rapidement quelque part. Et donc, le chauffeur doit toujours aller très vite.
Donc, est-ce que tu sens quand même que tu manques d'autonomie de pas savoir conduire?
Non, pas du tout. Il est assez. Le chauffeur de taxi est assez gentil. Au contraire, il m'amène très très bien. Mais on est toujours on est deux à lutter contre l'heure.
Ouais, contre la course
C'était
du
un peu
temps.
ça le matin parce que mon père, ça prenait 1 heure pour aller à l'école en voiture. Et il fallait qu'on prenne la voiture. Et mon père avait une énorme voiture. Il avait une Cadillac.
Ah oui, ça flashait quoi
Et,
à l'école.
ouais, qui était, qu'il avait, tu sais, c'était tout son argent allait dans la Cadillac. Et on traversait la ville, mais il fallait toujours se presser parce que moi je déteste être en retard et je voulais être à l'école à 8 heures. Donc,
C'est drôle parce que moi aussi, c'est ma mère qui me conduisait. Enfin, je dis moi aussi, au sens où quelqu'un me conduisait aussi, c'est ma mère qui me conduisait tout le temps partout. Pour aller à la danse,
ouais.
pas pour l'école. Pour l'école, on allait à pied d'abord, puis après en bus pour aller au lycée. Mais pour tout ce qui était extrascolaire, en fait, je dépendais quand même beaucoup de ma mère. Et moi, je pense que j'aimais vraiment pas ça. À la fois, on avait des très bons moments dans la voiture. C'est vrai, c'est marrant, c'est des choses dont on parle jamais, mais les moments dans la voiture,
Oui.
les conversations qu'on a dans une voiture, souvent, on pourrait les avoir nulle part ailleurs. On les aurait pas s'il n'y avait pas ce moment-là dans la voiture. Donc ça, c'était des moments privilégiés que j'aimais bien. Mais par ailleurs, j'aimais pas dépendre de ma mère pour aller quelque part, parce que ma mère part toujours à la dernière minute. Moi aussi, ça m'angoissait beaucoup.
Mon père était toujours aussi en retard.
Ouais.
Mais c'était, je pense, parce que j'avais pas d'hôtel à mon père, tu vois.
Ouais,
Mais
ouais, ouais.
c'est vrai que les moments dans la voiture sont. Mais la voiture est un lieu aussi de rêve. C'est-à-dire qu'on rêve beaucoup qu'on est en voiture. Je ne sais pas pourquoi. Parce que.
Ouais, c'est vrai.
C'est un.
Parce qu'on est nulle part vraiment.
Oui, j'ai l'impression que, comme le rêve d'ailleurs, qui nous permet
Ouais.
d'être un peu nulle part.
On transite, mais on peut apprécier le voyage pour lui-même, en fait.
Ouais, puis moi aussi, enfant, comme je faisais beaucoup de parascolaire, il fallait toujours qu'on me conduise. Mon école était très loin, tu sais, c'est aussi une certaine vie.
Oui, c'est vrai que ça devient un mode de vie que tu dois pas avoir ici avec ta fille, en fait, parce que tout est dans le quartier à pied,
Tout est dans le
j'imagine.
quartier, c'est ça. Puis j'ai pas voulu qu'elle aille à l'école loin du quartier. Loin de la maison.
C'est bien.
Ouais, mais c'est une autre vie. Et quel est ton. Quel lien tu vois entre les rêves et la littérature? Est-ce que tu vois. Tu as beaucoup travaillé sur Duras. Les écrivains que tu aimes, est-ce qu'ils ont un rapport fort à leurs rêves?
Bah chez Duras, justement, il y a cette mère qui voit des oracles, dans laquelle je reconnais beaucoup ma mère, mais dans laquelle moi je ne veux pas me reconnaître par contre. Donc je pense qu'il y a cette espèce de distance fascinée à la mère qui se pense dépositaire de certains savoirs spéciaux, mais auxquels moi je ne crois pas.
Même chez Duras, elle est pas mal oracle aussi.
Absolument,
Elle a hérité ça de sa mère.
ouais. Par contre, je pense que la littérature est visionnaire. Tu vois, j'aurais plus confiance dans la littérature pour être visionnaire, y compris collectivement, en fait. Alors que, oui, je pense que dans les rêves, il y a quelque chose vraiment qui concerne chacun. Puis c'est pas, j'ai déjà essayé justement d'écrire mes rêves, et tout en trouvant que bon, ça peut être de beaux textes, j'ai pas encore trouvé comment leur donner une dimension pour que il dépasse ma sphère privée, en fait, parce que je vois pas très bien comment ça intéresserait quelqu'un d'autre. Sauf si j'arrive, puis je pense que pour l'instant j'y suis pas arrivée, sauf si j'arrive à accéder à une sorte de mécanisme type qui serait celui de la relation d'interprétation, justement, qu'on entretient à soi-même par le rêve. Mais je pense que la littérature, comme le rêve, ce sont des temps parallèles sans lesquels on ne pourrait pas vivre le temps du jour, en fait.
Comme la voiture,
Comme la
des
voiture,
parfois, parfois.
absolument. Ouais. Ouais, je pense que c'est des temps parallèles que fonctionnellement dont fonctionnellement on a besoin, mais que fonctionnellement une société reconnaîtrait pas comme nécessaire ou utile. J'aime énormément le texte que tu as écrit sur ton blog sur les rêves, justement, où tu compares les rêves de Goebbels avec ceux d'Obama ou ceux des tiens pour critiquer l'idée qu'on a tous le même rêve, qu'on a tous les mêmes rêves. Ça, j'ai trouvé ça extrêmement juste parce que justement, dans le rêve, il peut se jouer quelque chose de l'ordre d'un conflit entre le singulier et le collectif. Donc, un rêve national, ça a toujours quelque chose de dangereux parce qu'en vérité, le rêve, c'est quelque chose de privé qui ne devrait pas être entamé par une réductibilité commune, en fait. Si on n'avait plus le droit au moins de rêver, enfin, tu vois, c'est tout le principe aussi de La Jetée de Chris Marker que j'ai enfin vu récemment. C'est magnifique parce que les rêves appartiennent à quelqu'un. Il faudrait pas qu'on puisse regarder dans les rêves des autres, en fait. Même si ce serait sûrement très beau et très instructif, mais c'est notre cinéma à nous, quoi.
Et en même temps, est-ce que tu penses qu'à partir d'un rêve très personnel, quelque chose de collectif peut avoir lieu ?
Je crois que oui. Je pense que c'est le travail de transformation de l'écriture qui réussit ça. C'est juste que dans mon cas personnel, je n'ai pas encore réussi, mais je crois que oui. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui se dit que tu ne savais pas que tu avais à dire, ou que tu ne savais pas qu'il se disait en toi. Puis c'est le même travail que fait la littérature de ce point de vue-là.
Est-ce qu'il t'arrive de rêver des choses pour les autres ? C'est-à-dire, tout à l'heure, tu as dit, ça me dit quelque chose sur moi. Tu sais, ça, le rêve me parle. Hein, le rêve me parle de quelque chose que je... Est-ce qu'il t'arrive des fois de rêver de gens et bien sûr, ça te parle. Je veux dire, ça pourrait leur parler à eux. Est-ce que...
C'est drôle, tu vas me donner l'impression que je suis vraiment narcissique.
Non, pas du tout. Je suis pas sûre que ça existe. Je demande, tu sais, je demande.
J'ai pas d'exemple en tête. Il me semble que si c'était arrivé, ça m'aurait suffisamment marqué pour que je m'en rappelle. Bah, à part, comme je te dis, par exemple, de mon frère. Mais en même temps, je pense pas que le rêve disait quoi que ce soit de mon frère. Mais je vais répondre à l'envers à ta question, puis je vais vraiment avoir l'air narcissique. Mais il y a une chose qui m'a beaucoup troublée récemment, c'est que mon beau-frère, le mari de ma sœur, a rêvé de moi.
Ouais.
Et il a dit à ma sœur, qui m'a dit ensuite, qu'il avait rêvé de ma fille. Alors ça m'a énormément troublée, parce que j'ai pas de fille, en tout cas pour l'instant, ou alors elle est née quelque part, je sais pas encore. Mais ça m'a beaucoup troublée, justement parce que je pense que ça m'a énormément touchée, parce que c'était comme une attention, son rêve.
Ouais, c'est ça.
Et en même temps, ça m'a touchée aussi, parce que ça me paraît extraordinaire qu'on puisse rêver pour quelqu'un, ou rêver vers quelqu'un, ou... Donc, je ne pense pas que moi, ça me soit arrivé, mais manifestement, c'est possible.
Non, mais c'est ce que je pense. C'est-à-dire que moi, je pense qu'il faut que quelqu'un ait rêvé pour nous. Tu sais, je me dis, même être né, c'est ça. C'est quelqu'un a rêvé pour nous, tu sais.
Ouais.
Mais
nous
là,
a rêvé.
Ouais. Ça doit être vert ici. Oui, alors aujourd'hui, à l'émission Rêver pour moi, je reçois Maïté Snovart. Maïté, merci d'être là d'abord.
Merci Catherine.
Et puis peut-être on va commencer tout de suite. Je vais te demander quel rapport as-tu au rêve ? Est-ce que tu rêves beaucoup ?
Alors je rêve beaucoup. Oui, je pense que je rêve beaucoup. Je rêve beaucoup et je rêve toutes les nuits. Je ne me souviens pas tout le temps de mes rêves, mais je rêve beaucoup, ça j'en suis sûre. Et quand j'étais enfant, en fait, c'est ma sœur qui était très bonne pour me faire raconter mes rêves le matin.
Ma sœur aînée,
oui. Elle avait vraiment, je ne sais pas si c'est toujours comme ça, peut-être elle le fait maintenant avec ses enfants, mais elle avait vraiment le don, je dirais, de me faire, de me poser les bonnes questions, tu sais, d'appuyer exactement sur... Moi, je racontais simplement ce qui s'était produit, l'action, si tu veux, et elle me posait les questions qui, psychologiquement, en fait, faisaient résonner des choses. Alors, elle était au courant de toute ma vie, ma sœur, elle a 3 ans de plus que moi, on vivait beaucoup de choses ensemble, on se racontait tout le soir dans le lit. Puis elle m'a demandé, est-ce que tu crois que ceci dans ton rêve, ça te fait penser à cela ?
Ou
est-ce
vrai.
Que... Et ça devenait tout de suite symbolique, en fait. Elle était vraiment très, très bonne pour faire ça. C'était rigolo. Donc, je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à...
Est-ce qu'il y avait une habitude chez vous, dans la famille, de raconter des rêves ?
Il y avait l'habitude d'avoir le dictionnaire des rêves dans le tiroir du buffet en bas, que ma mère consultait assidûment, je dirais. Donc, il y a vraiment cette pratique-là, ouais, de... C'est ma mère, en fait, qui a cette pratique-là au départ. Et j'imagine que ça s'est transmis d'une certaine façon. Même si ma mère, en fait, raconte pas tellement ses rêves. Elle raconte un peu ses rêves, mais pas tellement. Mais ça s'est passé donc à ma sœur et moi. Puis il y avait le côté... Le matin, on lisait notre horoscope, puis on ouvrait le dictionnaire des rêves.
Tu vois,
il y avait le côté comment la journée allait-elle se dérouler.
Moi aussi, je te disais, on avait la clé des songes, livre, donc un livre de culture pop, là.
D'accord, oui.
Mais un peu Jungien, en fait. Ouais. Après ça, j'ai compris que c'était Jungien, mais où on regardait la signification. Mais mon père avait lui-même des interprétations des rêves très, très forte.
C'est lui proposé, tu
vois. Oui, mais avec des symboles. C'est-à-dire, c'est mauvais, un bon ou un mauvais rêve. Que ta sœur, ça n'a pas l'air d'être ça. Ta sœur, ça avait l'air...
Non, ma sœur, elle me faisait vraiment trouver quelle signification le rêve avait pour moi. Qu'est-ce qu'il avait à me révéler le matin, en fait.
Et tu gardes cette habitude-là de raconter tes rêves le matin?
Un peu, mais même si je continuais à la raconter, c'est pas du tout systématique, mais ça m'arrive si le rêve m'a marqué ou m'a choqué. Mais j'ai pas du tout ce don-là qu'a ma sœur. C'est-à-dire qu'en fait, moi toute seule, je n'arrive pas à construire l'interprétation.
Et pour les autres, comment tu fais?
Pour les autres, mieux, oui. Oui. Pour Daniel en particulier, avec qui je vis, oui, quand de temps en temps, ce qui est rare, il me raconte ses rêves, moi j'ai l'impression de voir assez bien, d'arriver à en mettre en perspective avec ce qui s'est vécu dans la journée de la veille. Mais pour moi, non, c'est... J'ai pas ce don-là de ma sœur.
Même quand tu les racontes, tu les interprètes pas?
En fait, bizarrement, non, pas vraiment.
Tu les écris, tes rêves?
Ça m'arrive de les écrire, oui. Il y en a plusieurs que j'ai écrits déjà.